Comme l'avons déjà souligné, lisons dans Luc chapitre 1 et chapitre 2 plusieurs passages, considérons plusieurs passages, mais en le faisant, ne pensons pas au temps d'autrefois, mais gardons aussi sous nos yeux ce qui se passe maintenant. Et puis plus particulièrement en ce qui concerne la partie surnaturelle, telle que c'était autrefois, comme accompagnement de l'accomplissement des prophéties bibliques. Ainsi, nous reconnaissons aussi de nos jours que là où Dieu est actif, est en action, il se produit toujours du surnaturel. Mais le surnaturel sera toujours en relation avec l'accomplissement de la prophétie biblique. Dieu ne nous éloignera jamais de sa parole, bien au contraire. Il nous amènera toujours à sa parole. Il nous conduira toujours par son esprit là où se produit ce qui doit se produire justement à ce moment précis selon son conseil divin. Et c'est dans Luc 1, au chapitre 1, nous lisons cela ici, je lis à partir du verset 11, ici il est écrit: un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel des parfums. À sa vue, Zacharie fut saisi d'effroi et la crainte le saisit. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, ta femme, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu en éprouveras de la joie et de l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès sa naissance. D'abord, ce texte jusqu'ici. Ça, c'était l'annonce du précurseur lors de la première venue de Christ, tel que cela avait été prédit dans le prophète Ésaïe, chapitre 40, verset 3, et dans Malachie 3, verset 1. Lorsque le temps était accompli, Dieu veilla sur sa parole pour l'accomplir et pour faire en sorte que s'accomplisse ce qu'il avait promis et pour faire ce qu'il avait annoncé. Dieu trouvait toujours des anges qui se tenaient à son service au ciel, qui pouvaient être ses messagers, car c'est ainsi qu'il s'était créé. Il fait des anges, des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Vous pouvez le lire dans Hébreux, au chapitre 1, dans les trois derniers versets. Le Seigneur a ses messagers dans le ciel et il a ses esclaves serviteurs sur la terre. Et les deux, le ciel et la terre, sont alors réunis et unis pour mettre en œuvre le dessein de Dieu et l'exécuter et l'accomplir. Et pour qu'il soit exécuté, mis en œuvre. Il y a une parole magnifique dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, qui dit que la justice et la paix s'embrasseront, que Dieu a promis de donner le salut. Le psaume 85, il est écrit au verset 10 et jusqu'au verset 12. Psaume 85, verset 10 à 12. Psaume 85, verset 10. En vérité, son salut est proche de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays, afin que la grâce et la fidélité se rencontrent et que la justice et la paix s'embrassent. La fidélité germera de la terre et la justice regardera du haut du ciel. Dieu a conduit les choses ainsi, en sorte que le commencement se déroule de cette manière et grâce à lui. Et nous pouvons le lire aujourd'hui ainsi. Et par sa grâce, nous pouvons le lire aujourd'hui. Imaginez-vous que l'on n'ait pas pu écrire à l'époque et que nous n'ayons aucune, que nous ayons aujourd'hui aucun compte rendu de ce qui se serait passé alors autrefois. Nous serons dans l'ignorance. Nous n'aurions pas de ligne directrice à suivre. Regardez comment est-ce que Dieu a fidèlement pourvu pour aux deux. Donc pour l'Ancien Testament, avec toutes les promesses, toutes les annonces, toutes les prédictions, avec toute la prophétie. Et ensuite, le Nouveau Testament, comme confirmation de l'accomplissement, comme confirmation de ce que Dieu avait dit par la bouche de ses esclaves, serviteurs et prophètes, c'était accompli. Nous avons la confirmation dans le Nouveau Testament. Il est dit ici, tu en éprouveras de la joie et de l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Il y en avait aussi beaucoup qui ne se réjouissaient pas. Mais qui étaient ces beaucoup qui se réjouissaient de sa naissance? Qui étaient-ils? C'était ceux qui sont allés dans le désert de Judée pour entendre cet homme envoyé de Dieu, par Dieu, qui ne se sont pas laissés retenir par le temps pour une synagogue, qui ont simplement suivi l'élan de leur cœur pour entendre cet homme de Dieu. Ils se sont réjouis de sa naissance et se sont également réjouis de son service auquel ils avaient participé. Il a également écrit, car il sera grand, le verset 15 de Luc 1, devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès sa naissance. L'ai-je écrit ou dit, Jean était un prophète promis. Jésus était le Messie promis, le Rédempteur, le Sauveur promis, qui devait venir écraser la tête du serpent. Les prophètes en ont parlé et écrit. Puis, tout à coup, cela s'est accompli et s'est réalisé. Et écoutez maintenant attentivement comment cet ange Gabriel cesse de lire au milieu d'un verset, exactement comme notre Seigneur a cessé de lire au milieu d'un verset dans Luc, le chapitre 4. Luc chapitre 1, verset 16, il est écrit, « Il ramènera au Seigneur, leur Dieu, un grand nombre de fils d'Israël, et c'est lui qui le précédera dans l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants. » Si vous lisez dans le prophète Malachie, au chapitre 4, au verset 5 et verset 6 de Malachie 4, il y a encore plus de choses qui sont écrites. Là, il n'est pas seulement écrit de retourner le cœur des pères vers les enfants. Il y est aussi écrit de retourner le cœur des enfants vers les pères. Mais cette partie, l'ange ne l'a plus lue ou cité de mémoire à Zacharie. L'ange s'est arrêté là où se terminait la partie qui se rapportait au ministère, au service de Jean-Baptiste. Je suis tellement reconnaissant à Dieu pour l'exactitude que nous trouvons dans les Saintes Écritures. Il n'y a pas de mélange. Nous pouvons en parler librement et ouvertement. Et celui qui le reçoit de Dieu ou le voit révélé le comprendra exactement, correctement, sans qu'aucune malentendu, sans qu'aucun malentendu, pardon, ne soit possible ici. Il tournera à nouveau le cœur des pères vers les enfants. Souvenez-vous du chapitre 1 des Hébreux. Dieu a parlé aux pères par les prophètes il y a bien longtemps et de bien de manières. Mais maintenant, le moment n'était pas seulement venu de parler et d'annoncer ces choses. Maintenant, le temps était arrivé pour les Écritures de s'accomplir et que le cœur des pères soit guidé et dirigé vers ce que Dieu faisait maintenant, c'est-à-dire accomplir l'Écriture. En d'autres termes, que le message de l'heure qui était cette parole qui était en train de s'accomplir sous leurs yeux leur soit annoncée et que ainsi ils ne croient pas seulement, mais ont cru et ont vu s'accomplir ce que Dieu avait promis. Nous vivons maintenant à l'époque, dans le temps où les cœurs des enfants sont ramenés à ceux des pères. Autrefois, les croyants de l'Ancien Testament les conduire à ce qui avait commencé à se produire dans le Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, maintenant, à la fin de cette époque, les cœurs des enfants de Dieu sont ramenés à la prédication des pères apostoliques, des véritables pères de la foi. Les cœurs des enfants de Dieu maintenant sont ramenés. Donc, lorsque nous revenons à Dieu et à la parole de Dieu, nous ne remontons pas seulement au 2e, 3e ou 4e siècle, ni même au premier ou deuxième millénaire. Nous remontons jusqu'à la prédication originelle telle qu'elle est sortie pure et sainte sous l'inspiration de l'Esprit, de la bouche de ceux que Dieu avait désignés pour cela. Et je crois que tous ceux qui sont destinés par Dieu à hériter la gloire s'en réjouissent. Les autres s'en offusquent et se sentent offensés et disent « Oh, ils courent après un homme. » Non, nous croyons que Dieu est vivant. Nous croyons que Dieu agit et nous serions des insensés. Si nous prenions part à ce que les hommes font maintenant et si nous passions à côté de ce que Dieu fait maintenant, le privilège des élus dans tout temps a été de reconnaître en leur temps l'action de Dieu. Parce qu'elle se passait avec eux, se faisait avec eux, au milieu d'eux, parmi eux. Cela se passait parmi eux. Ils étaient les témoins vivants de ce que Dieu faisait en leur temps. Il en va de même pour notre époque. Chaque fois que j'entends Frère Branham donner son témoignage personnel et qu'il parle de la manière dont il a été appelé et envoyé avec le message, cela me réjouit au plus profond de mon cœur. Il n'y a pas d'évangéliste de cette génération qui puisse dire la même chose. Il n'y a pas de grand prédicateur qui pourrait dire en tel jour, à telle heure, en tel lieu, le Seigneur m'a fait dire, le Seigneur m'a, m'a fait dire ceci et cela par un ange qui a dit, je suis envoyé vers toi de la présence de Dieu pour te dire que ta vie incomprise et tes voix singulières, étranges, témoignent déjà en elles-mêmes qu'une mission de Dieu t'a été donnée. À l'époque, un ange est venu voir Zacharie. Pensez-vous que cela ne serait plus possible aujourd'hui? Ah bien, certainement. Ça, je crois à 100% que cela s'est passé de la même manière avec Frère Branham. Nous savons tous qu'il avait un mandat à accomplir dans l'histoire du salut. Ça, nous le savons tous. Dans l'histoire du salut, lié à l'histoire du salut. Et nous savons aussi que le surnaturel s'est toujours trouvé là où il y avait des hommes à qui Dieu pouvait se révéler. Nous pouvons tourner une page ou deux et aller au chapitre 2 de Luc. Vous connaissez tous cette histoire. Et il est dit ici à partir du verset 9. Luc 2, verset 9. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Donc une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici la marque de reconnaissance pour vous. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de morceaux d'étoffe de laine et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre dans les hommes de son bon plaisir. La plupart des traductions ont fait preuve ici de simplicité et écrivent là et paix sur la terre aux hommes et pour les hommes un bon plaisir. Quels hommes? Les hommes qui ont reçu la grâce de Dieu pour avoir part à ce qu'il fait au moment déterminé dans leur temps, croyez-moi. Les vrais croyants ne sont pas des hommes auxquels Dieu parle ou en passant à côté d'eux et agit en passant à côté d'eux. Non, les vrais croyants sont ceux à qui Dieu révèle ce dont il s'agit dans leur époque. Comme il est écrit, Dieu ne fait rien, mais il révèle. Dieu ne fait rien sans avoir d'abord révélé ses écrits à ses esclaves, serviteurs, les prophètes et ainsi à son peuple. Donc ainsi à son peuple, en les révélant à ses esclaves, les serviteurs, les prophètes, il les révèle ainsi à son peuple. Les bergers étaient donc dans les champs. Curieusement, l'ange du Seigneur n'est pas apparu à la synagogue, dans la synagogue, ni au temple, mais non plus dans le temple, mais maintenant aux bergers. Et ce message leur a été communiqué. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici la et toute l'armée céleste s'est joint à eux et a loué Dieu. Et ont chanté, gloire à Dieu au plus haut des cieux, verset 14, et paix sur la terre. Dans les hommes, de son bon plaisir, du bon plaisir divin, d'Enoch, nous lisons qu'il était agréable à Dieu. Et il est dit de notre Seigneur lors de son baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Cela est répété dans Matthieu chapitre 17. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Qui sont ceux qui entendent maintenant ce que l'Esprit dit aux églises. Ceux qui voient le Fils de l'homme marcher au milieu des sept chandeliers d'or. Ceux qui savent que Dieu a eu au cours des différentes époques ses messagers à qui il pouvait parler et par lesquels il pouvait ensuite parler lui-même pour ensuite porter le message de Dieu au peuple de Dieu. Mais il y a des hommes sur terre sur lesquels repose le bon plaisir de Dieu. J'insiste encore une fois sur ce point. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui ont trouvé vraiment grâce devant Dieu. Et lorsque nous avons trouvé grâce devant Dieu, nous disons, comme Moïse l'a dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce devant toi, fais-moi connaître tes voies, afin que je sache que j'ai vraiment trouvé grâce devant toi. » Si vous voyez une personne qui témoigne de la grâce avec ses lèvres, mais qui ne suit pas le chemin de Dieu et ne reconnaît pas non plus ce que Dieu fait maintenant, une telle personne a fait l'expérience de la grâce en théorie, mais pas en pratique. Dans la pratique, la grâce vécue signifie devenir un avec Dieu. Le mur de séparation a été enlevé, ôté. L'inimitié a été ôtée. Nous avons été unis à Dieu. Et de cette union, relation avec lui, nous reconnaissons sa parole et les promesses qui s'accomplissent dans notre temps. À l'époque, comme nous l'avons déjà souligné, il y avait des hommes qui étaient témoins et qui ont vécu témoins de ce qui se passait. Aujourd'hui, il doit y avoir des hommes qui vivent et sont témoins de ce que Dieu fait maintenant. Et je crois que cela a été déjà évoqué dans l'introduction. Nous nous attendons tous avec impatience, n'est-ce pas, à ce que Dieu se révèle. Pour que l'on n'ait plus à dire, mais où est donc votre Dieu? Notre Dieu donc se manifeste. Notre Dieu a un plan. Et nous voulons nous laisser intégrer dans ce plan. Cela aussi, je l'ai déjà dit ici. Avant que les choses finales et puissantes puissent se produire, il faut que l'appel à sortir ait eu lieu. Et que ceux qui appartiennent au peuple de Dieu, de toutes les langues, les peuples et les nations, soient appelés à sortir pour vivre ensuite la conclusion, la fin, l'achèvement avec ceux qui ont déjà été appelés à sortir. C'est pourquoi nous devons encore patienter jusqu'à ce que ce processus soit suffisamment avancé pour que Dieu puisse accomplir dans les faits et en vérité les dernières grandes et glorieuses choses parmi son peuple. En attendant, il nous est demandé de rester fidèles, de persévérer, de rester patients et de ne pas murmurer et nous plaindre, mais de nous fortifier les uns les autres et nous encourager et d'aller de l'avant dans l'attente que oui, le Seigneur se lèvera lui-même et achèvera aussi son œuvre. Commencez. Revenons ici à Luc chapitre 1. Beaucoup se réjouiront de sa naissance. À chaque fois que des esclaves serviteurs de Dieu ont apparu, certains se sont réjouis, d'autres se sont mis en colère. Ceux qui croyaient et participaient à ce que Dieu faisait, se réjouissaient. Les autres étaient en colère. Il en était de même pour notre Seigneur. Il a eu un ministère si béni. Les malades étaient guéris. Les lépreux étaient purifiés. Les morts étaient ressuscités. Et on s'écriait, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Qu'il s'en aille, débarrassez-vous de lui. Oui, il voulait, n'est-ce pas, Barabbas, mais pas Jésus. N'est-ce pas, le dispensateur de tous les bons dons, le dispensateur de la vie. Ils n'ont pas reconnu leur époque. Ils ont jugé humainement et non divinement. Et le divin doit toujours être jugé divinement. Et cela doit être et sera toujours en accord avec les Écritures. C'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux pour moi. S'il est écrit dans Michée 5, par exemple, que le Messie naîtra à Bethléem, alors je me réjouis de lire ici dans l'Évangile de Luc qu'un ordre est parti de l'empereur Auguste pour que tout le monde soit recensé dans le lieu de sa résidence auquel dans le lieu de résidence auquel il appartient. D'où il vient donc. Et il arriva que les parents s'y installèrent au moment de l'accouchement. Oh, je m'en réjouis. Dieu veillait sur sa parole. Ce n'est pas à Nazareth que cela pouvait arriver. Ils partirent de Nazareth pour suivre ses commandements humains afin que la parole de Dieu s'accomplisse. Parfois, Dieu utilise même des hommes qui peuvent, n'est-ce pas, émettre un décret, un commandement. Et cela aussi fait partie de ce que Dieu fait. Nous pourrions maintenant revenir au peuple d'Israël. Lorsqu'il devait revenir, après 70 ans de captivité, nous pouvons voir comment est-ce que Dieu a mis dans le cœur du roi Cyrus, ou Corée selon la traduction, cet avis que le peuple devait revenir et reconstruire le temple, etc. Et reconstruire le temple, etc. Dieu peut diriger les cœurs terrestres ou les cœurs incrédules comme des cours d'eau. Il peut faire venir un Hérode, un Pilate, un Auguste, qui qu'il soit, si cela sert à l'accomplissement de son dessein de salut. Il peut se servir de tous, quels qu'ils soient. L'empereur Auguste avait donné un ordre, mais Dieu était derrière cela. Derrière lui, Dieu avait si bien programmé le temps, comme on le dirait aujourd'hui. Il ne manquait pas un jour, il ne manquait pas une heure. Une chose, au bon moment, tout au bon moment et au bon endroit, personne n'avait besoin de l'aider. Non pas à l'extérieur de Bethléem, mais ils y sont arrivés là à Bethléem. Et déjà, s'accomplissait ce qui avait été dit par le prophète Ésaïe. Je peux vous le lire dans l'Ancien Testament. C'est écrit noir sur blanc dans Michée, au chapitre 5, n'est-ce pas, que le Seigneur naîtrait là. Et il en fut ainsi. Pourquoi mettons-nous l'accent sur tout cela aujourd'hui? Je veux le savoir, si vous le savez. Nous le soulignons pour une seule raison, parce qu'à l'époque où l'histoire du salut a commencé, Dieu était actif, efficace à tous les niveaux. Parce que ce soit auprès de Joseph, de Marie, d'Auguste, de Zacharie, ou que ce soit, ou quand Dieu commence à agir, c'est toujours pour accomplir sa parole, pour confirmer ce qui est écrit. Nous trouvons cela jusqu'à la crucifixion, jusqu'à la résurrection, jusqu'à l'ascension. Tout s'est passé comme cela avait été dit par la bouche des prophètes. Oui, lorsque les gens sont entrés dans Jérusalem en chantant Hosanna, c'était pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète Zacharie au chapitre 9, au verset 9, qu'est-ce que c'était? Tout était préparé, déterminé, avec précision, au jour et à l'heure précis, prêt, de sorte que tout pouvait se dérouler avec exactitude, comme dans un scénario. Les rôles étaient distribués, ils étaient joués par tous ceux qui y participaient. Aucun n'avait besoin de se concerter avec l'autre. Tous étaient et agissaient dans un même esprit, car l'heure de Dieu était venue et ce qui était écrit devait s'accomplir. Et je m'en réjouis, qu'il s'agisse du roi Auguste ou alors de Pilate, peu importe, ou de Zacharie, à qui il est dit ce qui va arriver, mais tous, où qu'ils soient, et qui qu'ils soient, Dieu a veillé à ce que l'Écriture s'accomplisse, à ce que les circonstances, à ce que tout se déroule comme il l'a prévu au moment voulu. Nous pouvons voir les choses de la même manière aujourd'hui, par grâce, s'accomplir. Ce n'est pas un hasard, mais c'est une planification divine. Nous n'aurions même pas su quelle promesse et quelle prophétie s'accomplit, s'appliquait à nous. Si un homme n'avait pas été envoyé par Dieu, n'était pas venu envoyé par Dieu, et après que même dans les Saintes Écritures, nous l'avons trouvé confirmé, notre foi a un fondement sur lequel il peut bâtir, sur lequel il peut faire confiance. Sur ce point également, nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, mais comme Jean exactement savait quel passage des Écritures s'appliquait à lui. De même, cet homme, dans notre génération, envoyé par Dieu, devait savoir exactement quel passage des Écritures s'appliquait à lui. Jean a donné la réponse dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, cela au verset 22 et 23. Ils lui dirent, verset 22, « Qui es-tu donc ?» Nous devons apporter une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Pour qui te fais-tu passer toi-même? Il répondit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a ordonné le prophète Ésaïe. Amen. Qu'est-ce que c'était? Il savait très bien que c'était ma tâche. Il faisait partie du plan du salut de Dieu pour cette époque et connaissait sa tâche. Tous ceux qui sortaient pour entendre le message divin étaient déjà préparés pour le Seigneur, pour recevoir le Seigneur, car Jean n'ouvrait pas la voie pour lui-même et ne construisait pas son propre royaume. Il ouvrait un chemin pour le Seigneur. Et la même chose se produit dans cette génération. Ce n'est pas une nouvelle organisation qui a été appelée à l'existence. Non, un chemin a été tracé pour le Seigneur, aplani pour le Seigneur. Et sur ce chemin, même un insensé ne peut pas se tromper, ne peut pas s'égarer. Et si tu es destiné à participer à l'action de Dieu, à l'action finale de Dieu aujourd'hui, alors il dirigera aussi ton cœur comme un torrent d'eau et tu reconnaîtras ce qui sera ta paix. Tu reconnaîtras le chemin de Dieu et tu ne te laisseras pas retenir par quiconque. Tu ne discuteras pas non plus avec la chair et le sang. Tu ne consulteras pas non plus la chair et le sang. Car tu n'obtiendras pas de réponse là. Demande à celui qui donne toujours la bonne réponse. Et cela, c'est la parole de Dieu qui nous donne toujours la bonne réponse. Si quelqu'un s'entretient avec la chair, consulte la chair et le sang, il entendra des hommes et peut-être même l'ennemi parler à travers des hommes. Mais celui qui reçoit la réponse par la parole se repose en elle. Sa foi a une ancre solide. Nous voyons ainsi qu'au début, qu'au commencement du Nouveau Testament, Dieu agissait ici-bas de manière surnaturelle. Qui d'entre vous s'attend à la fin à une action surnaturelle de Dieu dans l'Église ici-bas, ici sur cette terre, avant qu'elle soit enlevée? Amen. À 100%. Dieu est surnaturel. Et partout où Dieu agit, il y a du surnaturel. Et ce sera toujours biblique. Jamais ça ne sera pas biblique. Non. Toujours. Nous trouverons toujours l'accomplissement de la prophétie biblique là où Dieu agit. Alléluia. Je m'en réjouis. C'est la seule façon pour nous de vérifier si la chose est vraie. N'importe qui peut nous dire, oh, cette chose-là est juste, elle vient de Dieu. Oui, si elle est de Dieu et qu'elle est juste, alors je veux la voir juste dans la Bible. Et si je la vois dans la Bible comme une promesse et que je peux assister à son accomplissement, alors c'est tout à fait juste. Alors là, elle est, c'est tout à fait juste. Loué soit le don du Seigneur. Nous pouvons alors dire, non seulement avec raison, pas seulement que c'est juste, mais aussi avec conviction. C'est ici que s'accomplit ce que Dieu a promis. Je lis cela dans Luc 1 de la prière de Marie, qui a été inspirée de manière exceptionnelle par le Saint-Esprit. Et je voudrais que vous observiez à cette occasion, combien de fois l'Esprit de Dieu qui parlait maintenant à travers elle a mis en évidence les passages bibliques qui ont trouvé leur accomplissement à l'époque. Après chaque phrase prononcée, le passage biblique correspondant qui a trouvé son accomplissement est apparu. Et c'est ce que je veux vous lire ici maintenant. Dans Luc, au chapitre 1, du verset 46. Alors Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. » Vous pouvez le lire. Habakkuk 3, verset 18. Parce qu'il a regardé la bassesse de sa servante. 1 Samuel 1, verset 11. Car voici que désormais toutes les générations me diront bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Deutéronome 10, verset 21. Oui, son nom est saint. Psaume 111, verset 9. Et sa miséricorde s'étend de génération en génération à ceux qui le craignent. Psaume 103, verset 17. Il déploie sa puissance avec son bras. Il disperse ceux qui sont orgueilleux dans leur cœur. Psaume 89, verset 11. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Psaume 147, verset 6. Job 5, verset 11. Il rassasie de bien les affamés et renvoie les riches à vide. Psaume 107, verset 9. Psaume 34, verset 11. 1 Samuel 2, verset 5, 7 et 8, etc. Il a agréé Israël, son esclave serviteur, pour se souvenir de la miséricorde. Ésaïe 41, verset 8, psaume 98 ou bien 98 avec verset 3. Parce qu'il a promis à nos pères, à Abraham et à sa descendance pour l'éternité. Amen. Michée 7, verset 20. Genèse 17, verset 7. etc. Quelles leçons en tirons-nous? Tout simplement, la très grande leçon suivante. Celui qui est vraiment inspiré par l'Esprit de Dieu et qui a été honoré par Dieu pour vivre une certaine partie de la prophétie divine, cet homme-là est poussé par l'Esprit. Maître, et il sera poussé par l'Esprit à mettre en évidence les passages bibliques qui trouvent maintenant leur accomplissement. Donc, aucune prière en esprit ne passe à côté de Dieu et sa parole. Ta prière et la mienne dans l'esprit, dans notre entendement, peuvent passer à côté de Dieu et de la parole de Dieu. Mais une prière dans l'esprit, en esprit, elle ne peut pas passer à côté de Dieu et de la parole de Dieu. Au contraire, l'esprit sonde toutes choses. Il révèle tout au temps convenable, au temps voulu, et nous fait connaître les passages bibliques qui trouvent leur accomplissement. Il est donc dit ici en conclusion, ainsi merveilleusement, qu'il l'a promis à nos pères, tel qu'il l'a promis à nos pères, le verset 55. Maintenant, regardez Michée 7, 20 et puis Genèse 17, 7. Maintenant, regardez de la prière de Zacharie, qui aussi fut remplie de cet esprit et prononça les paroles prophétiques. Maintenant, nous lisons dans Luc 1, les versets 67 et suivant, le texte. Les textes suivants ici, ils figurent. Et Zacharie, son père, fut rempli de cet esprit. Luc 1, verset 67 maintenant. Et prononça les paroles prophétiques suivantes. Loué soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Psaume 41, verset 14, 72 ou bien 72, verset 18. Car il a jeté un regard bienveillant sur son peuple et lui a créé une rédemption. Psaume 111, verset 4. Et il nous a suscité une corne de salut dans la maison de David, son esclave serviteur. Psaume 132, verset 17. 1 Samuel 2, verset 10. Psaume 132, verset 17. Car ainsi il a promis par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Qu'est-ce que c'était et qu'est-ce que c'est? Nous continuons tout de suite à lire. Pas seulement Marie, mais aussi Zacharie, qui a été rempli du Saint-Esprit et a commencé à parler, lui aussi, comme Marie. Il a mis en évidence l'Écriture dans son accomplissement. Il a souligné par l'Esprit ce que les prophètes avaient prophétisé par l'inspiration de l'Esprit. Il y a des centaines d'années. Et ici, cela a été remis sur le chandelier, mis en lumière et montré dans l'accomplissement. Alléluia! Gloire à Dieu! Aujourd'hui, nous avons tout un mouvement charismatique. Il y a des mouvements pentecôtistes de toutes sortes. Et tous disent, oui, nous avons le Saint-Esprit. Et nous parlons et nous discutons. Je ne porte pas de jugement ici aujourd'hui, mais la parole de Dieu doit être et est en tout point la norme, la mesure à laquelle nous devons tout mesurer. Lorsque des hommes, autrefois, furent remplis de cet esprit, l'esprit les a conduits dans toute la vérité de la parole. L'esprit a mis dans leur cœur et dans leur bouche les passages de l'Écriture qui était alors devenu autrefois une réalité. Si le même esprit nous remplit aujourd'hui, te remplit, me remplit, toi et moi, que ferons-nous aujourd'hui? Nous mettrons en évidence les passages bibliques qui sont maintenant en cours d'accomplissement. Nous allons les mettre en évidence. Le même esprit qui, à l'avance, a donné les prophéties par l'inspiration, est le même esprit qui se repose sur les siens et les inspire pour voir ensuite l'accomplissement de la prophétie biblique dans leur temps. Pour moi, c'est quelque chose de sublime que je ne peux pas exprimer avec des mots. Vraiment, tellement bouleversant, touchant, merveilleux. Remarquez-vous les différences en toutes les directions et la direction de Dieu. Remarquez-vous la différence en tous les esprits et l'esprit de Dieu. Les esprits, y compris les esprits pieux, religieux, que ce soit les esprits de Pentecôte, vont dans toutes les directions sous le ciel. Mais le Saint-Esprit va que dans une seule direction, la direction divine. Et la direction divine est démontrée dans la parole de Dieu. Et montrée dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi les Saintes Écritures sont devenues notre guide. Notre guide. Qu'a dit Siméon, qui est aussi entré dans le temple? Qu'a-t-il dit? Il était guidé par l'Esprit. C'est ainsi que c'est écrit. Il lui a été révélé par l'Esprit qu'il ne verrait pas la mort. À moins qu'il n'ait vu le Christ, le Messie. Et il a été conduit par l'Esprit dans le temple. Oui, quand a-t-il été conduit là-bas? Y a-t-il été conduit? 3 jours trop tôt? 2 jours trop tard? Non! À l'heure juste! Au jour juste! C'est ainsi que Dieu l'a fait. L'a guidé, l'a conduit par le Saint-Esprit. Oh, quelle différence entre les paroles pleines d'onction que certains prononcent, n'est-ce pas, sur leurs lèvres et qui disent « Je ne me laisse guider que par l'Esprit de Dieu ». Et si l'on regarde au-delà de ces paroles d'onction, pleines d'onction, il manque même l'onction dans son ensemble. Et de toute manière, il leur manque la direction de l'esprit, la conduite de l'esprit. Car, comme nous le voyons ici, la direction de l'esprit est la direction selon les paroles de Dieu. L'introduction dans ce que Dieu a promis et dans ce qu'il accomplit maintenant, non pas être conduit à côté de Dieu, mais en Dieu, dans son action, que nous pouvons maintenant vivre par grâce. Vous savez que frère Branham a dû suivre un chemin si difficile, précisément parce qu'il était envoyé par Dieu. La parole de l'heure, les promesses pour ce temps, il a été envoyé à les mettre sur le chandelier, à les mettre en lumière. Et tous ceux qui sont maintenant vraiment remplis du Saint-Esprit, ils seront conduits par l'Esprit dans toute la vérité. De passage biblique en passage biblique, de clarté en clarté, de connaissance en connaissance, de lumière en lumière. Et ils voient ce que Dieu fait de plus en plus clairement, comme c'est écrit dans le psaume, dans le proverbe 4, jusqu'à ce que le jour clair se lève. Et c'est ainsi que la lumière apparaisse. Et c'est ainsi dans le proverbe 4, n'est-ce pas? Et nous le voyons ici dans Luc chapitre 1 maintenant, à partir du verset 72, donc 72. Pour faire miséricorde à nos pères, Michée 7, verset 20, et se souvenir de sa sainte alliance, psaume 105, verset 8, 9, et 116, le psaume 116, verset 45, et Genèse 17, verset 7, du serment qu'il a fait à Abraham, notre père, Genèse 22, verset 16 et 17, Jérémie 11, verset 5, de nous délivrer de la main de nos ennemis, etc., etc. Ensuite, verset 76, donc 76. « Mais toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour lui préparer les voies. » Malachie 3, verset 1. « Pour procurer à son peuple la connaissance du salut qui lui sera accordé par le pardon de ses péchés. » Jérémie 31. Verset 34. C'est ainsi que le veulent les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Ésaïe 60, verset 1 à 2, Malachie 4, verset 2, etc. Pour donner la lumière à ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Ésaïe 9, verset 2, et pour guider nos pas dans le chemin de la paix. Pourquoi ai-je lu tous ces passages maintenant? Lorsque je suis arrivé à cette réunion aujourd'hui, je n'avais pas du tout l'intention de le faire, de lire ces choses. Je n'avais pas encore lu ces deux passages bibliques. Je l'ai fait ici, maintenant. Je me réjouis que Dieu nous ait donné une compréhension aussi claire de ce qu'il fait maintenant. Il n'y a plus de place pour l'ambiguïté. On va simplement de clarté en clarté, d'accomplissement des Écritures en accomplissement des Écritures. Il en était ainsi au début, au commencement, il en sera ainsi maintenant à la fin. Qu'est-ce donc que la direction de l'esprit, la conduite de l'esprit? La conduite de l'esprit, c'est d'être conduit dans ce que Dieu fait maintenant selon sa parole. Et vous le savez aussi, il est écrit dans chaque écrit dans l'Apocalypse que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Qui entend cela aujourd'hui? Qui l'entend, ce que l'Esprit dit? Pas tous ceux qui pensent être remplis du Saint-Esprit, mais ils passent à côté de ce que l'Esprit dit à l'Église maintenant. Dieu a des hommes, a des personnes qui lui sont agréables, qui ont son bon plaisir, des gens qui sont destinés et choisis et élus pour croire en tant qu'enfant de Dieu obéissant, pour avoir part à ce qu'il fait en leur temps. Peu importe où tu habites, quel est ton nom et qui tu es, Dieu te connaît. Il t'a choisi pour vivre maintenant. C'est maintenant qu'il faut écouter les paroles de la promesse prononcées par l'Esprit de Dieu. C'est maintenant qu'il faut chercher dans les Saintes Écritures pour savoir ce que Dieu fait maintenant par grâce. Nous avons été prédestinés à voir et à entendre le cœur et les yeux ouverts et à prendre part à ce que Dieu fait maintenant. Et c'est pourquoi nous distinguons de tous les autres. Croyez-moi, dans les jours de Jean-Baptiste, il y avait beaucoup d'activités religieuses. Oui, dans le temple, dans les synagogues, le Shabbat était célébré, et ainsi de suite. Mais Dieu avait commencé. Et c'est ceux qui l'ont reconnu? C'était des hommes, des gens que Dieu avait simplement pris. Des gens dont il savait qu'ils me croiront. Ils ne fouleront pas sous leurs pieds ce que je leur confie. Ils seront reconnaissants. Ils en seront reconnaissants. Ils écouteront, ils prêteront l'oreille, ils accepteront. Et en eux, je pourrai me glorifier. Dieu ne veut pas que ces choses précieuses soient maintenant jetées en pâture à tous. Les gens ne savent pas quoi en faire. Non, Dieu a des hommes, a des gens, des personnes, des gens de son bon plaisir. Dans chaque pays, dans chaque langue, dans chaque nation. Des gens de son bon plaisir. Peut-être te sens-tu plus mal que certains frères et sœurs. C'est très bien ainsi. Avoir cette attitude n'a jamais fait de mal à personne. Si tu ne tombes pas dans une sorte de dépression à ce sujet, mais que tu te sens humble et petit et que tu sais que ce n'est que grâce que l'on puisse reconnaître le Seigneur et son action et ses actions. Mais je veux te dire une chose. Un homme qui a trouvé vraiment grâce devant Dieu ne se lèvera jamais au-dessus des autres, jamais. Ni les regardera jamais de haut avec mépris. Il ne lèvera les yeux que pour remercier le Seigneur de ce que nous avons reçu et de ce qui nous a été confié. Il n'y en aura pas un jour pour se placer au-dessus des autres et même pour juger les autres. Non, non. Mais c'est avec un cœur reconnaissant que nous venons, nous aussi, remercier le Seigneur. Vous pouvez le lire dans l'histoire, dans Luc 2. Lorsque les bergers arrivèrent dans cette région, c'est-à-dire directement à Bethléem, ils trouvèrent tout comme cela leur avait été rapporté par les anges. Et il en sera de même maintenant. Nous trouverons tout comme cela nous a été prédit dans les Saintes Écritures. Vous savez, vous pouvez lire toutes ces choses dans Luc chapitre 2, tout est écrit en détail jusqu'à la fin. J'insiste encore une fois sur ce point. Pour moi, c'est un grand privilège de pouvoir vivre maintenant, de reconnaître maintenant la prophétie biblique pour cette époque. Comprendre maintenant que Dieu a envoyé un prophète et un message prophétique pour accomplir un, pour produire une séparation parmi le peuple, une décision finale. Et si quelqu'un veut nous reprocher de suivre un homme, il s'est lourdement trompé. Il s'est trompé. Nous ne suivons aucun homme. Nous suivons Dieu que nous observons maintenant dans son action, dans l'accomplissement de la prophétie biblique. Et du fait que nous avons trouvé bon plaisir devant lui, nous avons trouvé son bon plaisir, nous avons reçu son bon plaisir, nous pouvons nous aussi y prendre par grâce à ce que Dieu fait. À l'époque, il y en avait quelques-uns et ils étaient de plus en plus nombreux. Il en va de même maintenant. Des hommes et des femmes sur la terre ont été désignés par Dieu pour entendre en leur temps la parole de l'heure, la promesse de l'heure, pour croire, pour donner raison à Dieu et pour attendre que s'accomplisse ce qu'il a promis. Cette grâce nous a été accordée à toi et à moi. Quand nous voyons cela, même les grands prophètes et même le plus grand homme de Dieu depuis les jours de notre Seigneur a été rappelé à la maison sans voir l'accomplissement des dernières choses. Nous pouvons encore vivre et compter sur l'accomplissement de tout ce qui reste à s'accomplir. Mais souvenez-vous que lorsque cela commence à s'accomplir, c'est une chose que cela aura lieu à la fois, une fois après l'autre. Donc, subitement, l'une après l'autre, coup sur coup. Nous avons maintenant un court temps de préparation pour être vraiment fondé bibliquement. Bibliquement, c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Et préparé pour le dernier tour. Nous croyons par grâce, comme l'Écriture l'a dit. Nous croyons toute promesse, chaque promesse, et nous croyons que le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Et la vérité est la parole de Dieu. La vérité est la parole de Dieu. Et nous avons connu la vérité. Et la vérité nous a libérés de toute erreur dans laquelle nous étions. Elle nous a pénétrés, oui, elle nous a sanctifiés. Lui, notre Seigneur, pour qui si merveilleusement, celui qui nous a rachetés si merveilleusement par son sang précieux et saint, il nous a sanctifiés et il nous sanctifie toujours plus dans sa vérité. Sa parole est la vérité. Oui, jusqu'à la fin, elle accomplira même le passage de 1 Corinthiens 15 et celui de 1 Thessaloniciens 4 du verset 13. À savoir que même ceux qui seront vivants à ce moment-là et qui resteront seront changés et enlevés dans la gloire sans voir la mort. comme Enoch, le septième après Adam, fut enlevé et ne fut plus trouvé sur la terre. Il en sera de même pour ceux qui vivront au moment du retour de Jésus-Christ et qui seront restés. Pendant qu'ils marcheront, se tiendront debout ou seront couchés, ils seront simplement changés dans leur corps et enlevés dans la gloire. L'un sera deux dans le même champ, deux à la même mule, deux dans le même lit. L'un sera pris, l'autre sera laissé. L'autre restera. Heureux ceux qui peuvent dire oui à la parole, qui peuvent que dire oui et amen, la recevoir, l'accepter. Oui, à chaque parole de Dieu, dire amen. Qui peuvent de tout leur corps la confirmer, qui peuvent suivre, l'accompagner de tout leur cœur. En fait, il a déjà la certitude d'appartenir à ceux sur qui repose le bon plaisir de Dieu. Le bon plaisir de Dieu pèse sur la terre, dans les hommes, du bon plaisir divin. Nous voulons et pouvons être de tels hommes, des hommes du bon plaisir divin. Par Christ, par ce qui s'est passé à Golgotha, toi et moi, nous avons été rendus agréables à Dieu par l'œuvre accomplie de la rédemption à Golgotha. Il a pris notre place et a été fait péché pour nous, afin que nous puissions en lui, pour que nous puissions en lui participer à la justice de Dieu, à sa purité et à sa sainteté. Pour que par lui nous soyons rendus participants à la justice de Dieu et à la purité, à la sainteté de Dieu. Et le passage de l'Écriture s'accomplira. Alors, ce que nous serons un jour n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera manifesté, nous le serons semblables. Alors, ne regarde pas à ton corps décrépit. Ne fais pas attention aux douleurs que tu as parfois. Et regarde à ton Seigneur et va de l'avant avec ton Dieu. Portant toutes ces promesses en toi. Et aussi sûrement que les promesses, nous les portons jusqu'à la fin, le temps viendra où elles nous porteront et deviendront en nous une réalité. Oui, nous les verrons devenir une réalité en nous-mêmes par la grâce de notre Dieu. Aussi vrai que nous les portons, elles nous porteront. Résumons et concluons ainsi. Le Nouveau Testament a commencé par l'accomplissement de la prophétie biblique. Le Nouveau Testament a commencé par l'action surnaturelle de Dieu ici sur terre. Dans les champs, là-bas chez les bergers. Là-bas chez Simon, c'est Siméon. Ensuite, avec Zacharie, en passant par Marie, partout, de toutes les couches sociales, où que nous soyons. Si nous avons été désignés par Dieu pour être impliqués dans son conseil de salut, cela ne fait aucune différence. Que tu sois prophète ou agriculteur, cela ne fait aucune différence. L'endroit où tu es dans les champs n'a pas d'importance. Dieu te fait participer à ce qu'il fait. Il fait en sorte que toute chose se passe conformément à sa sainte et précieuse parole. Et il sait où tu te trouves. Il sait qui tu es. Il t'a appelé. A oint tes yeux de sainte onction. T'a ouvert la compréhension des Écritures afin que tu n'aies plus à parler avec la chair et le sang et à constituer la chair et le sang, mais que tu comprennes que c'est Dieu qui parle avec nous. Ça, c'est la grande différence. Nous avons compris que c'est le Seigneur qui nous parle. Je ne serais pas étonné si lentement mais sûrement nous mettions aussi en évidence dans nos prières les passages bibliques qui trouvent maintenant leur accomplissement sous nos yeux et cela poussé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit. Pour rendre ainsi grâce à Dieu et lui dire et lui le remercier pour marcher avec lui et savoir qu'il a promis cela et qu'il le fait maintenant ainsi, selon sa parole. Je l'ai dit tout à l'heure, Bethléem était annoncé à l'avance, comme le lieu de la naissance. C'est là que cela s'est produit. Tout s'est passé comme Dieu l'avait prédit dans sa parole. Aujourd'hui, tout se passe comme Dieu l'a prédit pour ce temps. Bienheureux. Heureux celui qui ne se heurte pas à cela. Heureux celui qui se laisse arracher de tout et qui se laisse sortir de tout et qui dit, Seigneur, je veux moi aussi faire partie de ceux qui ont part à l'accomplissement de la parole, de ta parole maintenant et qui ont part à ce que tu fais maintenant. Dieu le permettra à tous ceux qui sont sincères, le fera avec tous ceux qui sont sincères. Comme autrefois au commencement, maintenant à la fin, nous trouverons tout comme les bergers l'ont trouvé. Nous trouverons tout comme il nous l'a dit dans sa parole. Même l'état général des derniers temps. Croyez-moi, nous pourrions encore entrer dans beaucoup de choses. Il est écrit que dans les derniers jours, l'amour se refroidira dans beaucoup. Vous savez ce qui est écrit dans les derniers temps, pour les derniers temps, n'est-ce pas? Dans 1 Timothée 3, dans 2 Timothée 4, dans Luc 21, dans Matthieu 24, dans 2 Pierre chapitre 3, au sujet des moqueurs qui seraient à la fin des jours. Nous avons pourtant vu tout accompli. Nous avons pourtant tout accompli. Nous voyons tout cela accompli. Je vous le dis, nous pourrions aujourd'hui aligner entre nous tout un registre d'accomplissement d'écriture. Dieu nous a fait grâce. Il nous a bénis en nous accordant le droit d'aînesse. Il nous a bénis avec le droit d'aînesse pour écouter ce qu'il a à nous dire maintenant et pour nous donner de le suivre et de classer et comprendre des choses dans l'ordre biblique. Tout n'est que grâce. Et pour cette grâce, nous voulons aujourd'hui encore remercier notre Seigneur très sincèrement et du fond du cœur. Car qui sommes-nous? Dites-le moi. Dites-le à vous-même pour une fois. Qui êtes-vous? Tant de gens sont meilleurs que nous. Et nous sommes maintenant réunis ici devant la face de Dieu. Méprisés. Cela aussi a été évoqué. Et Paul l'a d'ailleurs écrit aux Corinthiens. Comme ceux qui sont considérés comme des séducteurs. Mais en réalité, comme ceux qui, n'est-ce pas, doivent tout endurer à cause de la vérité, mais qui sont véritables. La voix des prophètes et du Seigneur n'était pas sur des roses. Elle était sur des épines. La voix des apôtres aussi. Notre chemin ne sera pas différent. Mais suivons le chemin du Seigneur jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Je veux parcourir ce chemin avec mon Seigneur jusqu'à la fin et me réjouir chaque fois que je vois à nouveau l'accomplissement des Écritures. Combien se réjouissent de pouvoir vivre à l'époque où la prophétie biblique s'accomplit, dans laquelle des prophéties bibliques s'accomplissent par la grâce de Dieu parmi nous, en nous et finalement aussi à travers nous, par la grâce de Dieu. Dites-le tous pour une fois. Amen. 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 Amen.